Bonsoir. Mon nom est Catherine Doré et je vous souhaite la bienvenue à l'émission La Voix de la librairie, qui est une émission littéraire enregistrée en direct à la librairie Saint-Jean-Baptiste, située au 565 rue Saint-Jean à Québec. Ce soir, nous allons parler du Québec et d'un aspect du Québec que nous connaissons assez peu, un aspect fort approprié, je dirais, en ce printemps québécois. Nous allons d'abord vous parler d'un spectacle qui va avoir lieu ce soir à la librairie, juste après l'enregistrement de l'émission, un spectacle qui s'intitule « Toute terre est prison » et qui s'inscrit dans une lutte contre le déclin de la culture au Québec. Nous aurons ensuite une entrevue événement du mois avec Mathieu, qui va nous parler d'une soirée qui se tiendra, si je me souviens bien, le 25 mai à la librairie Saint-Jean-Baptiste, dans le cadre du Festival de l'anarchie de l'Agité. Et il se trouve que Mathieu a également écrit un livre sur l'histoire du mouvement anarchiste au Québec, un livre qui a été publié en 2008 chez Lux Éditeur. Donc, nous allons nous entretenir avec lui de tout ça. Ensuite, Mylène a eu la bonne idée ce mois-ci de nous parler des origines catholiques des mouvements de gauche au Québec. Et comme vous le savez peut-être, les premières organisations syndicales sont nées au sein du clergé. Ça s'appelait à ce moment-là les Jeunesses ouvrières catholiques. Donc, Mylène a fait appel à un de ses amis, Martin, qui est un passionné de l'époque de la Grande Noirceur au Québec. Et ils vont nous dresser, tous les deux, un portrait fort instructif des idées de gauche qui circulaient dans les années 30, 40 et 50, bref, avant la Révolution tranquille, et ce, à travers différentes parutions comme « La Relève »,« Cité libre » et « Parti pris ». Nous clôturerons l'émission avec deux lectures. Deux textes qui se répondent à travers les âges, textes témoins, je dirais, de périodes troublées. Speak White de Michel Lalonde et Speak Rich en tabarnak de Marie-Christine Lemieux-Couture. Mais d'abord, on va écouter la chanson « Je me souviens » de French Bee.
Bilingual population. 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 Bilingual population.
Bonsoir, Gabriel.
Bonsoir, merci de me recevoir.
Ça me fait plaisir. Tu donnes un événement ce soir à la librairie, donc vers 9h, 9h15, tout de suite après nous. Qu'est-ce que c'est?
À la librairie, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une espèce de... Il va y avoir un compromis entre le théâtre et la poésie, basé sur des poèmes de Robert Klang, je ne sais pas comment le prononcer, en fait.
Okay.
Mais c'est tiré du recueil « Toute terre et prison ». C'est d'ailleurs comme ça que l'événement s'appelle « Toute terre et prison ».
Okay.
Et c'est monté par des gens du Cégep Sainte-Foy.
Ah bon?
Oui.
Et de quoi ça parle?
Ça parle... J'en ai aucune idée. Mais j'organisais l'événement, et puis là, il y a des délégués, puis c'est ces délégués-là qui s'occupent de l'événement à la librairie, parce que c'est un événement en plusieurs parties. Il n'y a pas un événement seulement ici à la librairie, il y a un événement aussi à l'AJT,
okay.
Au Théâtre des Gros-Becs et à l'Ostradamus. À l'Ostradamus, il y a de la musique traditionnelle. Un groupe qui s'appelle Par un dimanche au soir, qui vont faire de la musique acoustique, ça va être super cool. Au Théâtre des Gros-Becs, il y a la présentation d'un documentaire, et je garde la surprise pour les gens qui iront, mais c'est un documentaire sur l'indépendance et l'éducation,
okay.
Qui a été réalisé en 2008. Ça peut être un indice. Ici, à la librairie, c'est ça, c'est de la poésie et du théâtre, toujours sur le thème de la culture au Québec, et un peu en lien avec toute la crise de l'éducation au Québec présentement.
OK.
Et à l'AJT, il y a les X-Ray Zebras qui font de la musique festive et rythmée contre la hausse des frais de scolarité et le déclin de la culture au Québec toujours.
OK. Donc, c'est quatre événements qui vont avoir lieu simultanément, je comprends bien?
Oui. Entre 21h et 22h partout, sauf à l'AJT où il y a eu un conflit d'horaire. Ce sera entre 20h30 et 21h30, mais...
Okay.
Ensuite, il y a une marche qui part de tous ces points et qui converge au parc de l'Université du Québec, situé face à l'École nationale d'administration publique sur Charest.
Et c'est organisé par les étudiants du Cégep Sainte-Foy?
L'événement, non, l'événement à la librairie Saint-Jean-Baptiste est organisé par des étudiants du Cégep Sainte-Foy.
Okay.
Cependant, au Théâtre des Gros-Becs, par exemple, c'est un professeur de philosophie du campus Notre-Dame-de-Foy,
okay.
Qui présente les documentaires. C'est des élèves du campus Notre-Dame-de-Foy qui font de la musique à l'Ostradamus.
Okay.
Et sinon, c'est des gens de l'université qui sont à l'AJT.
Et qui a eu l'idée d'organiser ça ce soir?
Eh bien, c'est moi.
OK! C'est,
moi.
C'est toi qui décides d'organiser ça. Donc, quatre événements,
oui.
Simultanément. Puis, qu'est-ce que tu voulais dire à travers ces quatre événements-là?
Ben, ça entre dans une série de manifestations, en fait, contre la hausse des frais de scolarité, parce
okay.
que c'est le débat qui monopolise un peu l'attention ces temps-ci au Québec.
Le Québec, tout à fait, oui.
Mais on essaie d'aller plus loin avec le déclin de la culture, parce qu'il y a un débat de fond aussi sur cette question-là qui peut être prise comme... c'est une question qui n'est pas fondamentale, en fait, l'augmentation des frais de scolarité, mais il y a des enjeux fondamentaux derrière, puis la culture au Québec, c'en est un, donc il fallait axer le...
Puis quand tu parles du déclin de la culture, plus précisément, à quoi tu penses?
Ben c'est toujours en lien avec la hausse des frais de scolarité, parce qu'on s'est dit, quand on a pensé à créer l'événement, que, en fait, la hausse des frais de scolarité, elle touche pas les médecins. Parce qu'un médecin, même s'il sort de l'université avec 30 000 $ de dette, une année de salaire va rembourser sa dette. Tandis que quelqu'un qui étudie en philosophie, en sciences politiques, en musique, en littérature, vous voyez le fil conducteur.
En histoire,
c'est
en
ça.
Sociologie.
Dans le fond, tout ce qui préserve la culture au Québec, dans les universités, c'est ça qui est affecté, qui est le plus touché, parce que ça a un fort pouvoir dissuasif, une dette de 30 000 $ quand on veut s'en aller dans un domaine plus incertain. Donc,
mais quand on veut prendre des décisions sans que les gens chialent, c'est bien d'éliminer les intellectuels et les artistes, comme ça on peut faire ce qu'on veut.
c'est sûr que le gouvernement réfléchit un peu quand il pose des actions, mais il ne réfléchit pas toujours de la bonne façon.
C'est ce qu'on en essaie de lui faire comprendre, en tout cas.
Oui.
Très bien. Alors, tu me rappelles les événements qui ont lieu?
Il y a de la musique traditionnelle à l'Ostradamus, la présentation d'un film documentaire et un résumé des offres gouvernementales au Théâtre des Gros-Becs.
Okay.
Ici, à la librairie, c'est du théâtre et de la poésie un événement qui s'intitule « Toute terre et prison ». Et à l'AJT, c'est un spectacle des X-Ray Zebras.
Merci beaucoup, Gabriel. Merci. On invite tout le monde à venir voir ça.
Ça m'a fait plaisir et bonne révolution.
Merci. On va faire une petite pause musicale. On va écouter une chanson de Charles Davré, interprétée par René Binamé, « Le triomphe de l'anarchie ». Puis nous revenons avec Mathieu et le festival anarchiste de l'AJT. À tout de suite.
Tu veux bâtir les cités idéales, détruis d'abord les monstruosités. Gouvernement, caserne et cathédrale, qui sont pour nous autant d'absurdités. Sans plus attendre, gagnons le communisme, ne nous groupons que par affinité. Notre bonheur naîtra de l'altruisme, que nos désirs soient des réalités. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient, notre philosophie. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie révolutionnaire, et l'anarchie enfin a triomphé. Empare-toi maintenant de l'usine, du capital, deviens le fossoyeur. Ta vie vaut mieux que d'être une machine, tout est à tous et arrête à l'exploiteur. Sans préjugés, suis les lois de nature et ne produis que par nécessité. Travail facile ou besogne très dure, nom de valeur quand leur utilité. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient, notre philosophie. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. On rêve amour au-delà des frontières, on rêve amour aussi de ton côté. On rêve amour dans les nations entières, l'Europe fait place à la réalité. Oui, la patrie est une balivelle, un sentiment doublé de lâcheté. Ne deviens pas de la viande à caserne, je ne conscris mieux de vos désertés. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient, notre philosophie. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Que la nitro comme la dynamite soit là pendant qu'on discute raison. S'il est besoin, renversons la marmite, et de nos mots hâtons la guérison. Place pour tous au banquet de la vie, notre appétit seul peut se limiter. Que pour chacun la table soit servie, le ventre plat, l'homme peut discuter. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient, notre philosophie. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher.
Alors, nous accueillons Mathieu Houle-Courcel qui vient nous parler du Festival de l'anarchie de l'AJT qui est organisé par le collectif anarchiste L'Atelier. Bonsoir, Mathieu.
Bonsoir.
Alors, qu'est-ce que c'est que ce festival? Est-ce que c'est la première édition? Est-ce que ça fait longtemps que...
Oui, c'est la première édition, mais c'est pas la première initiative du genre à Québec. Notre collectif est présent dans la région depuis, sous différents noms, en tout cas, bon an, mal an, depuis déjà une dizaine d'années.
Ah oui.
Alors, on a participé à d'autres initiatives du même genre au fil des ans, dans ce qui était l'Îlot Fleuri. Ensuite, on a organisé avec d'autres collectifs libertaires de Québec ce qui s'appelait la journée autogérée pendant qu'il y a eu 3 ou 4 éditions. Mais depuis quelques années, disons, au printemps, on sentait le besoin de un peu brasser la cabane et puis de brasser des idées. Et il existe depuis déjà le début des années 2000 à Montréal, un festival de l'anarchie qui dure tout le mois de mai et qui culmine à la fin du mois par un salon du livre anarchiste.
Ça fait combien de temps, ça, à Montréal, que ça existe?
Depuis, en fait, l'année 2000. Donc, on
okay,
en est déjà
12 ans.
Oui, c'est ça. Et,
tout le mois de mai.
Ben, en fait, il y a des événements qui se succèdent. Il y a même un festival de théâtre anarchiste qui s'est greffé à ça, qui a amené des troupes de théâtre des États-Unis et d'Europe à venir se produire à Montréal. Et le Salon du livre anarchiste de Montréal, quand même, attire, bon an, mal an, environ 1 millier de personnes.
Quand
il y a
même.
Comme ça des ateliers, des conférences. Ça se déroule sur 2 jours. Et cette année, bien nous, on a décidé de mettre notre grain de sable, grain de sel, ou je ne sais trop, dans ce mois de mai dédié à l'anarchie et à l'anarchisme, en organisant à Québec 3 journées de présentation de films, lancement de livres et journée complète d'ateliers au Café Parle Agité et ici à la librairie Saint-Jean-Baptiste.
Et donc, ça a lieu le 24, 25 et 26 mai.
Oui, c'est ça, un jeudi, un vendredi et un samedi.
Et un samedi.
Oui.
Et donc, il y a des événements à l'Agité.
Et ici.
Et à la librairie.
Tout à fait.
Okay.
Alors, le 24 mai, on fait la projection, la première, en fait, d'un film documentaire qui a été tourné par Karine Rosso et Fernando Garcia Blanes, qui sont 2 cinéastes de Montréal. Le documentaire s'appelle Anarchronique, et c'est un documentaire d'environ un peu moins de 2 heures sur les mouvances anarchistes au Québec. Un tournage qui s'est effectué quand même sur 2 ans et il y a comme ça tout près d'une douzaine de personnes qui sont interviewées, qui font partie de différentes initiatives libertaires.
Okay.
Et ça donne, je dirais, un portrait assez complet et assez nuancé de la place qu'occupent les anarchistes aujourd'hui dans le paysage culturel, politique, social au Québec. Un documentaire qui aborde aussi, les différentes facettes que prend l'anarchisme aujourd'hui. Donc
c'est comme le portrait de 12 anarchistes d'ici.
Oui, leur point de vue, mais aussi on passe, du Québec, de Montréal et de Québec, mais on passe aussi en revue plusieurs initiatives organisées par des anarchistes différents.
Okay.
Par exemple, on parle du Salon du livre anarchiste que je mentionnais il y a quelques instants. On parle aussi des luttes contre, par exemple, la brutalité policière,
okay,
les luttes antifascistes encore aujourd'hui au Québec et antiracistes, la solidarité internationale,
mm-hmm,
des initiatives d'autogestion dans le milieu, par exemple, culturel. Bref, on couvre pas mal de terrain et à mon avis, en tout cas, ça vient briser peut-être certains mythes, certaines idées reçues sur l'anarchisme dont on parle,
oui,
beaucoup en ce moment avec
ce
fond de grève étudiante.
Oui, je pense qu'on va en parler de manière plus détaillée tout à l'heure.
Oui.
Effectivement, il y a effectivement beaucoup de mythes autour de l'anarchisme,
oui,
et de l'anarchie. Mais on va terminer là pour le festival.
Oui, alors,
donc ça, c'était le jeudi.
Ça, c'est le jeudi soir. C'était à l'AJT, donc c'était à 19h30, le 24 mai. Le 25 mai, à la librairie Saint-Jean-Baptiste, on organise un lancement d'un livre qui s'appelle Perspectives libertaires sur les services publics. En fait, qui est notre contribution de notre collectif ici local à Québec à tout le débat autour de la privatisation et la tarification des services publics.
Ah, oui.
Alors, il y a la question de l'éducation, évidemment, mais ça dépasse de loin tout ça.
C'est un super sujet.
C'était un bon sujet parce que les anarchistes, évidemment, luttent aussi contre les différents systèmes de pression et parmi les institutions qui sont souvent visées par les anarchistes, il y a l'État. Et peut-on penser les services publics hors de l'État? Peut-on,
ouais,
penser des services publics libertaires, autogérés? Mais c'est à cette question-là qu'on s'est attardé par une anthologie de textes. Et il y a un des textes de l'anthologie qui a été écrit par Serge Roy. Il y a déjà plusieurs années, Serge Roy, qui aujourd'hui est à Québec solidaire, mais il a un passé anarchiste, Serge, et il vient de publier d'ailleurs un livre lui-même, Fonction publique menacée, le néolibéralisme à l'assaut des services publics, qui est sa contribution aussi à ce débat-là. Et on va confronter un peu ces points de vue-là lors de la soirée. Donc, il y a le lancement du livre et il y a un échange avec Serge et avec les personnes qui seront présentes ici à la librairie Saint-Jean-Baptiste. Donc, ça, c'est le vendredi 25 mai à partir de 19h.
Donc, une réflexion sur la manière dont on pourrait avoir des services publics, mais en dehors de l'État.
Voilà, c'est ça.
C'est formidable.
Et le 26 mai, le lendemain, eh bien, c'est une journée complète d'ateliers, de conférences. Ça a lieu à l'AJT, au 251 rue Dorchester, à Québec. Et c'est toute la journée. On est très optimiste. On pense avoir des gens dès 9h30 le matin à l'AJT, jusqu'à 16h, donc, pour venir discuter. Et la programmation complète de ce festival et de la journée de samedi en particulier va être rendu public d'ici le 26 mai.
Est-ce que ça va être disponible sur
le web? Oui, sur le blog québec-libertaire.blogspot.com.
C'est formidable. Donc, voilà pour le festival de l'anarchisme.
On espère vous y voir nombreux et nombreuses. Pas besoin d'être anarchiste ou libertaire pour y participer.
On peut juste être curieux.
Curieux, curieuse. Venez débattre, venez discuter. C'est l'objectif. Et c'est gratuit. Tout est gratuit à travers ces présentations.
Mathieu, j'ai appris aussi que tu avais écrit un livre sur l'histoire de l'anarchisme au Québec qui s'intitule « Sur les traces de l'anarchisme de 1860 à 1960 ».
Oui, tout à fait.
Je savais pas qu'on avait fait une recherche sur l'anarchisme au Québec. C'est extraordinaire.
Ben,
Qu'est-ce qui t'a donné l'idée?
Ben, d'abord, je suis anarchiste depuis déjà quelques années. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à la question, j'ai évidemment cherché à voir si au Québec, il y avait eu des anarchistes au 19e siècle, au 20e siècle, comme il y en avait dans la plupart des autres pays du monde, en Europe, mais aussi en Amérique latine, aussi loin qu'en Afrique, en Asie ou en Océanie. Alors, pourquoi pas au Québec? Mm-hmm. Et malheureusement, il n'y avait pas à l'époque de livres écrits sur la question. Alors, j'ai commencé à prendre des notes de mes lectures et parce qu'il y avait des traces quand même du passage d'anarchistes ici. Il y avait des traces qui existaient à droite et à gauche et que j'ai décidé tout simplement de réunir. Et de fil en aiguille, la recherche pendant près d'une dizaine d'années, j'ai rassemblé comme ça ces témoignages. J'ai rencontré aussi, j'ai eu la chance de faire quelques entrevues avec des anarchistes qui ont été actifs et actives ici au Québec dans les années 40, 50 et 60, ce qui m'a permis de mieux comprendre justement ce climat-là, le climat politique de l'époque et quelle place pouvait occuper des gens qui pensaient très différemment des idées de leur époque, les idées dominantes de leur époque. Alors, finalement, ça a donné un livre qui a été publié chez Lux Éditeur en 2008, et qui vient d'être traduit en allemand.
Oh, wow.
Donc la version allemande du livre vient d'être publiée chez un petit éditeur de Lich en S. L'éditeur a acheté les droits et a publié le livre.
Mais félicitations, en 2011, c'est formidable, ça. Et dis-moi, 1860, est-ce que ce serait comme le premier anarchiste qu'on a réussi à retracer?
Ben, je dirais que ça, c'est le choix de l'éditeur de mettre cette date de départ. Moi, c'est plutôt, je dirais, le 1871 et ses suites, donc la Commune de Paris. C'est sûr qu'il y avait eu des précurseurs à ça ici au Québec quand même. Il y a eu des gens qui, de tout temps, ont pensé en marge, qui ont pensé contre les institutions dominantes de leur époque, qui ont développé un esprit critique ici. Mais à la suite de la Commune de Paris, ou plutôt de l'échec de la Commune de Paris, de la répression qu'il y a eu là-bas, il y a eu quand même des réfugiés politiques qui ont accosté sur les rives du Saint-Laurent, dans notre bonne ville de Québec, entre autres, et qui ont fomenté ici, disons, l'esprit de révolte et d'insoumission. Entre autres, ici à Québec, pour parler un peu de la ville, en 1878, il y a eu une série d'émeutes dans la ville de Québec pour dénoncer justement la précarité des conditions de travail, la précarité des conditions de vie. Et face à justement la contestation ouvrière dans laquelle il y avait faisait partie disons des communards, donc de ces réfugiés politiques français en bas de ce qui s'appelle la Côte du Chien dans la basse ville de Québec, la troupe a tiré sur la foule des manifestants et a atteint à la tête un certain Édouard Beaudoir qui lui-même était un communard français immigré ici. Et disons qu'à l'époque, ça a causé tout un émoi parce que on voit le drapeau rouge en ce moment dans les manifestations étudiantes, mais dès 1878, dans les rues de Québec, les ouvriers se promenaient avec ce drapeau rouge au vent.
Mon Dieu, il faut dire aux étudiants. Il faudrait que les étudiants le sachent, ils sont pas les premiers.
Donc, je dirais que l'histoire d'anarchisme au Québec, c'est aussi beaucoup l'histoire des immigrantes et des immigrants. De différentes vagues successives d'immigrantes et d'immigrants. D'abord, français au 19e siècle, puis juive au début du 20e siècle, tout particulièrement à Montréal. L'anarchisme a vraiment, l'âge d'or de l'anarchisme au Québec, c'est vraiment les années 1905, 1906, jusqu'en 1908. En fait, toute la période avant la Première Guerre mondiale, il y a quand même, ces idées-là circulent de façon assez librement surtout
par,
à Montréal.
Par les immigrants, par l'immigration.
Essentiellement, mais il y avait aussi dès 1905-1906, des groupes anarchistes francophones, dont l'un, le groupe anarchiste de Montréal, a fait publier une lettre ouverte dans le journal La Presse, qui est reproduite intégralement là, dans le livre, dans laquelle il dénonce la peine de mort. Et en fait, le journal La Presse décide de publier intégralement la lettre de ces anarchistes parce qu'il disait, écoutez, il s'agit de publier leurs écrits pour se rendre compte à quel point ces idées-là sont absurdes. Imaginez être contre la peine de mort. Faut être complètement dingue pour avancer ces idées-là. Donc, les anarchistes, évidemment, ont saisi quand même la balle au bon. Et ça a créé tout un débat dans les pages de la presse, parce que la personne que les anarchistes essayaient de sauver de la peine de mort était un immigrant italien. Alors, le journal La Presse est allé voir la femme de cet homme. Elle lui a demandé s'il était anarchiste ou s'il était proche de la mafia. Déjà, à ce moment-là, on fait l'amalgame facile entre le fait d'être italien et le fait d'être mafieux. Alors, en tout cas, c'est anecdotique un peu, mais ça pour dire que l'anarchisme est quand même discuté et quand même analysé. Dans les années après la Première Guerre mondiale, il y a quand même eu les anarchistes ont eu la vie un peu plus difficile parce que il y a la fondation d'un parti communiste ici comme ailleurs et beaucoup d'éléments révolutionnaires, beaucoup de personnes qui ont des idées révolutionnaires vont rejoindre justement ces partis communistes,
le mouvement communiste.
Et je dirais que y compris dans la communauté juive, il y a comme une période de dormance, mais qui va renaître à partir du moment où il y a des dissidents de ce parti communiste-là. Il y a des mouvements qui s'établissent en marge, des mouvements de sans-emploi notamment, des groupes qui font de l'éducation populaire. Et les anarchistes vont trouver leur place parmi ces dissidents et ces dissidentes et pouvoir diffuser leurs pensées ici jusqu'au début de la Deuxième Guerre mondiale. Et après la Deuxième Guerre mondiale, ben là, c'est l'arrivée d'un troisième groupe d'immigrants, des immigrants espagnols, ceux-là, qui sont passés par les camps de prisonniers en France après la défaite du camp républicain, la guerre civile espagnole, que les anarchistes ont faite et qu'ils ont malheureusement perdue. Et ces immigrants espagnols arrivent, par contre, ici au Québec, dans les années 50, apatrides, sans espoir révolutionnaire, portés par le vent, un peu comme des goélands. Et ils arrivent ici et ils sont stupéfaits de la place que prend l'Église catholique dans leur terre d'accueil. L'Église catholique qui avait été l'ennemi numéro un des anarchistes en Espagne. Alors, ils sont obligés de mentir sur s'ils veulent faire que leurs enfants fréquentent l'école.
Ils doivent se dire croyants. Ouais, sans voilà, ça, ils ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école. Ici, alors, à ce moment-là, c'est...
Et ils découvrent aussi un syndicalisme qui... eux ont défendu le syndicalisme, les armes à la main, et découvrent ici un syndicalisme, dans les années 50, d'accommodement avec les patrons. Et ils vont constituer des minorités agissantes au sein des syndicats. Et vraiment, c'est à partir des années 60, par contre, que le mouvement anarchiste, en tout cas chez les francophones, va vraiment prendre son essor, porté justement par la vague de contestation, par la nouvelle gauche.
Ça reste quand même un petit groupe au Québec, les anarchistes. Il n'y a pas un mouvement qui est vraiment organisé, qui est vraiment...
C'est des
individus qui s'intéressent à ces idées-là de manière isolée.
C'est évidemment une minorité. Dans la minorité... d'extrême gauche, la gauche révolutionnaire, c'est une minorité au sein d'une minorité déjà dans la société québécoise. Mais quand même, les idées anarchistes ont teinté certains des écrits les plus fondamentaux du Québec. Par exemple, le manifeste du refus global. C'est difficile de passer à côté de l'influence libertaire que les idées libertaires ont pu avoir sur Paul-Émile Bordua ou sur des poètes comme Claude Gauvreau. J'en parle dans le livre. Il y a quand même un lien qui se fait. Un lien ténu quand même pour certains, plus direct pour d'autres. on peut évidemment pas justement amalgamer la pensée des automatistes à la pensée anarchiste, mais de leur propre aveu, ça a été quand même une inspiration importante. À la même période où les surréalistes en France mettaient fin à leur lien avec le Parti communiste, en tout cas certains surréalistes, mais au Québec, c'est un peu la même chose. Ils ont été attirés par les idées de gauche, ils ont côtoyé les membres du Parti communiste à cette époque-là, ils s'en sont distancés parce qu'ils les trouvaient trop à droite pour eux. Ils ont côtoyé des anarchistes à Montréal, et ils ont trouvé une certaine proximité, une certaine parenté d'idées avec eux et avec elles.
En ce moment, le mouvement des idées anarchistes sont beaucoup plus répandues, je pense, que jamais au Québec, même si ça reste encore un petit nombre. Et j'ai l'impression que c'est pas un mouvement homogène, que les gens qui se réclament de l'anarchisme peuvent avoir des idées très différentes les uns des autres.
Tout à fait. Et d'ailleurs, dans le film, dans le documentaire qu'on projette le 24 mai à la JT, le documentaire Anarchronique, ça ressort très, très clairement. Alors, il y a des gens qui tiennent des discours assez différents sur des thèmes, sur plusieurs thèmes, sur plusieurs questions. Et l'anarchisme, c'est aussi la diversité. Il n'y a pas dans l'anarchisme de petits livres rouges, de petits bréviaires, de petits catéchismes qui nous dit comment penser, etc. Donc, les débats sont omniprésents, souvent pour le meilleur, parfois pour le pire, parce que le débat, des fois, il faut l'assumer aussi, c'est pas toujours simple. Mais néanmoins, il y a quand même une pluralité d'idées qui s'expriment.
En ce moment, il y a un groupe dont on entend beaucoup parler dans les médias. On parle, avec les manifestations qu'il y a eu, on entend parler du Black Bloc. Mm-hmm. Est-ce que c'est une bonne image? Est-ce que ça révèle bien ce que c'est que les anarchistes?
Bien, d'abord, le Black Bloc en soi, c'est pas une organisation. C'est une tactique d'organisation dans les manifestations qui nous vient d'Allemagne, d'abord, qui a été développée en Allemagne par le mouvement autonome. Donc, le mouvement autonome en Allemagne, c'était un mouvement qui était coloré par l'anticapitalisme, par l'antifascisme, qui a développé tout un réseau de squats dans ce pays, qui a développé des tactiques en manifestation d'organisation pour faire face à la police, pour pouvoir répliquer quand la police attaque. Maintenant, ces tactiques-là ont été importées en Amérique du Nord dans les années 90. Et je dirais que dans certains cas, ça peut être des tactiques qui peuvent être efficaces. Après tout, à Québec, lors du sommet des Amériques, c'est des membres du Black Bloc qui ont réussi, avec l'appui d'une large part des manifestantes et des manifestants, à faire tomber ce qu'on appelait le mur de la honte, donc ce mur, ce périmètre de sécurité qui coupait le quartier Saint-Jean-Baptiste où on se trouve en deux. Et je dirais que sous les applaudissements de bien des gens, ils ont réussi à faire tomber le mur. Par contre, évidemment, le Black Bloc en soi, c'est une tactique qui, si elle devient un fétiche, donc si les gens fétichisent cette forme d'action-là...
Oui, c'est qu'on identifie le mouvement anarchisme purement à un moment donné à ça.
Ben alors, à mon avis, c'est une erreur. C'est une erreur, mais il y a des anarchistes qui s'en réclament et d'autres qui le critiquent.
Même peuvent se dissocier de ces actions-là.
Ça arrive, effectivement. Donc, pour moi, en tout cas, il faut surtout pas faire du fétichisme par rapport au Black Bloc, qu'on soit pour ou qu'on soit contre. Donc, c'est ça. Donc, malheureusement, je dirais qu'il y a peut-être des gens pour qui l'anarchisme se résume à ça. Mm. Des gens qui participent aux actions du Black Bloc comme des gens qui dénoncent ces actions. Alors, il y a beaucoup plus à trouver et à découvrir.
Ben merci beaucoup, Mathieu Houle Courcelle. Donc, je rappelle le festival journées.
Oui, c'est notre festival de l'anarchie à Québec. Donc, c'est du 24 mai au 26 mai. Tous les détails sont sur le site québec-libertaire.blogspot.com.
Pour ceux qui veulent en savoir plus ou qui ont envie de connaître un petit peu plus ce que c'est que l'anarchisme, on invite tout le monde. Merci.
Ça me fait plaisir.
On va faire une petite pause musicale. On va écouter Le chant du patriote de Félix Leclerc et nous revenons en compagnie de Mylène et Martin qui nous parleront des mouvements de gauche durant la grande noirceur. À tantôt.
Demain je pars pour la guerre, avec mon grand chien qui aboie, des cailloux pleins magie de cierre et à mon côté gauche le droit. Je vais tuer sa majesté, qui dit ma tante, qui dit m'aimer. 100 fois par jour elle me trahit, on doit mourir quand on trahit. Je suis seul dans mon équipage. Les gens ici sont peu violents, parce qu'ils ont viande sous la dent et ventre plein n'a pas de rage. J'ai dans mon sac 45 tours, chansons, lacets, magie, vautour. Je me prépare à cette guerre depuis l'esclavage de mon père. Mes généraux sont des rivières et mon état-major le vent. C'est lui qui me tient au courant des mauvais coups qu'on va me faire. Majesté, je suis devant vous, sujet sans terre et sans abri. Vos étrangers nous ont tout pris, j'ai l'arme au poing, défendez-vous. Avant d'atteindre la colline, avant de crier feu, vas-y. On m'aura fait plier les chines, je suis bête dans ce pays. En même temps, suis un géant qui a bâti géant soumis, qui a dormi et dort encore, pourtant, pourtant, il est midi. Et si demain, dans les faits, vous me rejetez à l'exil, quelqu'un viendra finir ma guerre, peut-être votre fils, ainsi soit-il. Quelqu'un viendra gagner ma guerre, peut-être votre fils, ainsi faut-il.
Alors, nous sommes de retour avec Martin et Mylène. Bonsoir, Martin.
Bonsoir, Catherine.
Bonsoir, Mylène.
Bonsoir.
Alors, on va parler, des mouvements de gauche durant la Grande Noirceur. On a le sentiment que durant la Grande Noirceur, il ne se passait rien au Québec, hein? Que les gens vivaient docilement sous les ordres de Duplessis et de l'Église et que toute contestation était réprimée. Mais j'aimerais ça que vous me disiez un petit peu, c'était quoi le climat qui régnait au Québec dans les années 30, vraiment?
À la base, Catherine, ce qui motive l'intérêt, parce que ça peut surprendre des gens de penser à la base que des mouvements de gauche peuvent naître ou aient pu naître d'une ferveur, si on veut, religieuse, mais c'est le cas essentiellement au Québec. Et ce qu'on se rend compte, c'est que en regardant les années qui précèdent la Révolution tranquille, donc si on circonscrit un petit peu, je dirais 1930 pour être commode, là, 1930 à 1960, c'est qu'on voit que une époque où le Québec se cherche, hein, il y a des grands troubles sociaux à l'époque. On parle de la crise économique de 1929. Oui. On parle de l'entre-deux-guerres, si on veut, qui a créé des traumatismes assez intenses par rapport à la notion de personne humaine. Eh bien, il y a vraiment des courants qui naissent à cette époque-là et qui vont chevaucher, si on veut, les idéologies de base à l'époque, que sont le socialisme, le marxisme, le fascisme, le libéralisme. Et quand on regarde ça, eh bien, ça nous mène à une idéologie particulière qui s'appelle le personnalisme. Okay. Donc, le personnalisme, à la base, qui est une sorte de troisième voie à l'époque, qui naît en France avec Emmanuel Mounier. Ce courant-là, si on veut, va se transposer au Québec. Et c'est à partir de là que, moi, mon intérêt est né de voir qu'est-ce que le personnalisme, qu'est-ce que ça fait, justement, dans le contexte des idéologies de l'époque. Et on voit que c'est un vecteur de progressisme assez important. Et c'est là-dessus que la réflexion a démarré, finalement.
OK. Et qu'est-ce que c'est que le personnalisme?
Personnalisme, eh bien là, on va... vous allez voir, c'est pas très, très compliqué. Il faut déjà partir avec le préfixe « personne », si on veut... là-dedans, personnalisme. Je vous parlais des traumatismes de l'époque que sont la crise économique et la Première Guerre mondiale, contexte où la personne humaine est vraiment mise à mal à l'époque. Il y a des barbaries sans bon sens, il y a le contexte économique qui est très, très dur à l'époque, et il y a un groupe de réflexion qui décide de mettre ou de remettre la personne à l'avant-plan, elle qui se perd dans les idéologies, qui se perd dans le néant, bref, dans un contexte de vide.
Donc, mais attends un petit peu, là. La personne en opposition à quoi?
La personne en opposition, premièrement, si on le met par rapport au marxisme, par rapport à la conscience de classe.
Oui, oui.
Si on le met en opposition au libéralisme, c'est par rapport à l'individu. Donc, vous voyez la nuance entre individu et personne.
Non, moi, je la vois pas.
on va se rendre.
En fait, la personne, c'est que elle est perçue comme... il y a la personne, mais il y a la communauté aussi. Donc, c'est okay. C'est une manière de remettre la personne au centre des préoccupations de l'époque et au centre de sa communauté, de l'impact qui peut y avoir, de l'engagement, dans le fond. Donc, il y a une différence à ce moment-là avec l'individualisme ou...
L'individu est nombriliste, il pense qu'à lui-même, alors que la personne tient compte de sa communauté, c'est un petit peu ça?
Ben, l'individu aussi, c'est plus par rapport à l'État, là, si on veut. Tu sais, on a beaucoup opposé l'individu à l'État, à la société.
Oui.
Donc, c'est plus... on parle pas de droit, là, de la personne nécessairement, mais de l'agir de la personne dans le monde. Okay. Donc... ben, je sais pas si
non, tout à fait. Puis c'est là que justement le personnalisme entre en ligne de compte. C'est à partir du moment où, et là j'y vais avec un mot qui revient souvent même aujourd'hui, c'est le fameux bourgeois. L'époque, on se plaint beaucoup de la mentalité bourgeoise, une mentalité nombriliste, confortable, le confort du salon. Et on se demande ben justement comment l'individu peut s'accomplir lui-même dans la société, donc dans sa communauté, à partir d'une telle attitude de repli finalement dans le confort de son salon. Donc la personne, et c'est là que le catholicisme ou le christianisme entre en ligne de compte, c'est que la notion de personne resubstantialise, si on veut, la vie humaine en disant ben moi je ne suis pas qu'un individu bourgeois, je veux m'impliquer dans le monde, je veux le transformer et je veux pas le transformer à partir de justement mon confort de salon, mais à partir de ma spiritualité. Comment je peux agir sur le monde en totalité finalement.
Et donc ça c'était une le personnalisme, c'est une idée qui a été créée par M. Mounier.
Exactement.
Ouais. Et lui, est-ce qu'il a une relation avec le clergé? Est-ce que c'est un catholique?
Lui s'est converti, en fait. Il me semble qu'il s'est... Comment je pourrais dire? Il s'est reconverti. Ses maîtres, entre autres, c'est... Jacques Martin, avec la primauté du spirituel, Charles Péguy, il a été beaucoup influencé par ces hommes-là. Donc, lui se considérait comme chrétien, mais j'ai l'impression que une des prémices ou une des influences du personnalisme, c'est que aussi il y a Léon XIII. En tout cas, je veux pas me mêler dans mes papes là, mais il me semble que c'est Léon XIII qui avait publié une encyclique qui s'appelait Rerum Novarum, qui est en fait la naissance de la doctrine sociale de l'Église. Okay. C'est une époque où justement, l'Église a commencé à tenir un discours sur la pauvreté, sur justement les structures politiques qui oppriment à quelque part l'homme. On s'est mis à s'opposer à l'esclavage, ce qui n'était pas le cas avant. L'Église n'avait jamais n'avait jamais remis en cause l'esclavage. Donc ça fait quand même partie, c'était dans l'air du temps, si on veut, ces préoccupations-là des chrétiens, dans le fond, de s'engager dans le monde de plus en plus. Donc, c'est un peu ça là, qui voit la naissance des mouvements d'action catholique puis d'idées comme le personnalisme.
Tout à fait. Puis, pour continuer avec ce que Mylène disait, dans le fond, le lien avec le Québec, là où il se fait, c'est justement à partir de l'action catholique que Mylène parlait. Donc, l'action catholique, c'est des regroupements jeunesse volontairement créés par le clergé, finalement, et ça même à l'échelle internationale. Ça démarre des encycliques à l'époque. Faut pas oublier que aujourd'hui, un encyclique, ça n'a plus la même portée qu'à l'époque. Oui. Mais quand le pape écrivait au 20e siècle et même avant ça, et là, on fait le cours des siècles, eh bien, ça faisait office d'autorité. Et cette jeunesse catholique-là, eh bien, c'était vraiment dans le but de, justement, recadrer la jeunesse et lui donner une nouvelle forme d'implication dans la société. Et ça s'est rendu jusqu'au Québec. Et c'est là qu'on va voir apparaître le but de notre exposé aussi, la littérature de presse, finalement, étudiante, qui va naître de cette mouvance-là de jeunesse catholique.
La jeunesse semblait occuper beaucoup de place hein, à cette époque-là, parce qu'il y a les jeunes de ci, les jeunes de ça. On parle beaucoup de... Il y a différentes organisations de jeunes. Il y a les jeunes agriculteurs, les jeunes...
Oui. J'oserais quand même dire que, bon, l'Église a toujours été préoccupée par ces jeunes dans le sens qu'il faut, il faut les encadrer, il faut les occuper. C'est le meilleur moyen aussi de on forme cette jeunesse-là à travers des groupes, puis on les socialise, si on veut, d'une certaine façon, là. Donc, oui, effectivement, il y avait des mouvements pour tout, puis même les adultes, là, cercle des fermières, cercle de ci,
non, oui, non, c'est vrai.
Il y avait beaucoup de ces petits mouvements-là à l'époque, là, de ces petits regroupements-là pour tout et pour rien, là, dans le fond, mais qui étaient garants, à quelque part, d'un certain tissu social, puis d'une communication qui se faisait, là. Donc, c'est oui, la jeunesse, c'est ça, c'était... Ces mouvements d'action catholique-là, c'est ça, c'était quand même une manière de pour les jeunes de s'impliquer avec l'aval, dans le fond, de tenir des activités avec l'aval de l'Église, là. Donc,
on va faire une petite pause avant de préciser un petit peu plus ces mouvements-là. On va écouter, donc, une chanson... qui s'intitule « Le monde sans issue ». C'est un texte de Gaston Miron et c'est interprété par Chloé Sainte-Marie. On vous revient tout de suite.
Pleure un peu, pleure ta tête de vie. Dans le feu des épées, devant dans tes cheveux, parmi les éclats sourds de béton, sur tes parois, ta longue et bonne tête de la journée, ta tête de pluie enseignante. Épelure et callosité, ta tête de mort, ta tête de mort. Que je meure ici, au cœur de la cible, au cœur des hommes et des horaires. Que je meure ici, au cœur de la cible. Hommes. Et ne pouvant plus me réfugier en solitude, ni remuer la presse dans le bris du silence, ni ouvrir la paupière ainsi qu'un départ d'oiseau dans la savane. Seul endroit de la chair de solitude qui ne soit meurtrie. Même les mots que j'invente ont leur petite aigrette de chair bleuie. Que je meure ici, au cœur de la cible, au cœur des hommes. Que je meure ici, au cœur de la cible, au cœur des hommes. Souvenir, souvenir, maison lente. Un cours d'eau me traverse, je sais. La nord de mon enfance, avec ses mains d'obscure tendresse qui voltaient sur mes épaules. Ses mains de latitude, de plénitude, et mes 20 ans et quelques dérives, au gré des avenirs mortes, mes nuques dans le vide. Au cœur des hommes.
c'était « Ce monde sans issue », un texte de Gaston Miron qui a été choisi par Mylène. Pourquoi tu as choisi cette chanson-là, Mylène?
C'est surtout à cause des vers qui ont été repris comme refrain par Chloé Sainte-Marie, c'est-à-dire « Que je meurs ici, au cœur de la cime, au cœur des hommes et des horaires ». Moi, tu sais, on peut voir ce qu'on veut dans les vers quand on peut les interpréter de différentes manières, mais avec le contexte actuel de grève étudiante, je voyais vraiment quelqu'un manifestant se faire toucher, dans le fond, puis au cœur des hommes et des horaires, tu sais, alors que il y a les travailleurs autour, puis qu'il y a des gens absolument pas préoccupés par ça. J'avais vraiment cette image-là de quelqu'un dans une foule qui reçoit une balle en caoutchouc de la part d'un policier.
Ça nous touche vraiment, tous ces images-là qu'on voit à la télévision.
Oui, vraiment. Donc,
manifestations étudiantes.
J'ai réécouté Chloé Sainte-Marie récemment, puis en entendant ça, c'est vraiment l'image qui me venait. C'était probablement pas celle que Gaston Miron avait en tête, mais c'est un peu ça que ça m'évoquait.
Alors, on va poursuivre avec une autre jeunesse, une jeunesse d'une autre époque, la jeunesse des années 30 et 40. Et donc, les idées de gauche se sont exprimées, ce qu'on appelle le personnalisme, on peut dire que c'est une idée de gauche,
oui,
en tout cas pour
fait.
L'époque. Tout ça s'est exprimé dans des revues.
Oui, tout à fait. Et quand on parle justement de faire le lien avec la gauche, c'est qu'à l'époque, c'est qu'on considère comme ces premières parutions-là comme des parutions non conformistes. Donc, là où ces journaux-là innovent, et quand je dis journaux, je parle justement de la relève, qui a été présent de 1933 à 1941 dans sa première mouture, mais de 1941 à 1949 dans sa deuxième mouture, qu'on a appelé la Nouvelle Relève. Et dans ce journal-là, il y a même Anne Hébert qui écrit là-dedans, Saint-Denis Garneau aussi qui a écrit à l'époque. Et je parle de Cité Libre aussi, Cité Libre qui est peut-être un peu plus connue, qui a été de 1950 à 1969, si je me trompe pas, 1964 plutôt. Et plus tard, et ça dépasse un petit peu le cadre de 1960, mais c'est parti pris que ça, c'est vraiment le prolongement de ces revues-là, même si c'est complètement différent dans les propos. Donc, la relève, à l'époque, c'est justement une revue qui va naître de cet esprit-là non-conformiste et qui veut justement, comme on disait dans la première partie, redonner à l'humain, justement, comment on pourrait faire pour refaire une nouvelle esthétique, comment l'humain, finalement, peut s'imprégner dans le social, mais sans devenir politique. Et c'est là que la notion est. On dit que justement la gauche est très politique, mais pas encore à cette époque-là dans le courant personnaliste. Ça va être avec le temps que ça va se développer, et c'est là que le conflit va apparaître aussi à un certain moment donné.
J'ajouterais que c'est ça, si cette gauche-là au début n'est pas très politisée, c'est que dans l'Église a toujours fait rage un débat, celui du pouvoir spirituel versus le pouvoir temporel. Le pouvoir temporel étant ce qu'on peut appeler la politique, ou en tout cas l'engagement qui est davantage social. Donc, que des gens soient très mobilisés dans le social, ça allait jusqu'à une certaine limite, puis on va même voir les mouvements d'action catholique être condamnés à un moment donné parce que il y avait des membres qui s'impliquaient en politique, parce que l'Église a perdu un peu le contrôle, si on veut, de ces idées-là qui ont évolué à leur façon, dans le fond.
Et ça, c'était un des interdits, justement, Mylène, c'est que pour, justement, l'Action catholique dans laquelle la relève et Cité libre, justement, vont s'inscrire, c'est le refus. Et ça, c'est un interdit. C'est interdit de faire de la politique au sens proprement dit. Tu peux agir dans le social, tu peux, justement, essayer de réformer les mentalités, mais tu ne peux pas faire de la politique. Et c'est là que le clash, justement, survient à un certain moment donné. On va y revenir plus tard.
Ouais.
Et c'est là-dedans que, oui,
Mais dans les années 30, qu'est-ce qu'on retrouvait comme idée ou comme article dans ces revues-là? Parce que, comme vous dites, ils ne pouvaient pas contester le pouvoir directement. C'était impossible. Ils auraient été immédiatement mis en index.
Donc, mais, de toute façon...
Ça ressemblait à quoi?
J'y arrive, et c'est justement par rapport surtout au rôle des laïcs dans la société. Comment le laïc, finalement, peut agir dans le monde? Comment le laïc peut organiser, par exemple, des groupes, et là on est encore très loin, des groupes de tempérance, des groupes de soutien aux pauvres, des groupes, justement, d'aide aux ouvriers qui sont pauvres. Donc c'est que ça change. Mais on ne peut pas s'affilier à un parti, et on ne peut pas faire de la politique, mais on peut changer les mentalités. Et c'est là que la gauche, ou le concept de gauche s'inscrit, finalement. C'est ce que ça veut dire.
Ouais, il y a certaines critiques qui sont faites au clergé, mais il y a quand même, on ne s'inscrit pas en rupture là non plus avec avec le christianisme, le catholicisme. Il y a des critiques, mais justement, il y a une notion de continuité là.
Et de réforme. Et vraiment, les réformateurs, exact.
C'est une réforme. Donc, on veut changer, mais on veut pas se désaffilier. On veut changer l'Église de l'intérieur, dans le fond. Okay. Donc, oui, il y a des critiques, mais ces critiques-là sont encore faites de l'intérieur pour.
Et qu'est-ce qu'on voulait changer dans l'Église?
Ben,
beaucoup de choses. Et c'est encore une fois cette obsession du clergé à l'époque de tout contrôler. Quand on les appelle justement, quand on critique le conformisme, c'est parce que le conformisme, pardon, c'est quand on est non conformiste, pardon, c'est quand on critique le conformisme. Oui. Donc tout ce schéma de top down, si on veut, du haut vers le bas. Eh bien là, on veut faire un peu plus d'horizontal et moins de vertical.
Ouais. Ok, la hiérarchie déjà à cette époque-là. Je veux dire l'institution de l'Église, les croyants sentaient une certaine sclérose, si on veut, de l'institution. Donc, on voulait ramener un souffle, dans le fond, au sein de l'institution. Puis c'est pour ça qu'il y avait des... Puis en même temps, comme je dis, ça a pris du temps avant que l'Église décide de s'attaquer vraiment aux problèmes sociaux. Puis c'était pas non plus tout le clergé qui percevait bien les mouvements d'action catholique. Certains de ces mouvements-là étaient depuis le début de l'action, il y a toujours eu des critiques, puis c'était pas tout le monde qui était d'accord avec ça, entre autres parce qu'il y avait certains de ces mouvements-là qui étaient mixtes. Donc, puis bon, justement, il y a eu...
C'était très innovant.
Oui, très innovant.
Mix, ça a l'air de rien aujourd'hui.
Oui, mais exact. Puis en plus, il y avait des organisations qui étaient faites sous un mode assez festif. Ça aussi, c'était mal vu, là, si on veut. Donc,
on y allait au compte-gouttes, finalement.
On y allait au compte-gouttes, oui.
Puis, finalement, pour poursuivre ce que tu disais, Mylène, dans le fond, y aller au compte-gouttes aussi, c'était par rapport à qu'est-ce qu'on brise. C'est vraiment un souci d'amener plus de rationalité, si on veut, dans la vie publique, que les gens puissent réfléchir par eux-mêmes et qu'ils ne soient pas sous l'emprise des mythes ou de la morale, finalement. C'est vraiment de remplacer la morale par une certaine forme de conscience individuelle. Et c'est pourquoi le motto, si on veut, la devise de l'Action catholique à l'époque, et surtout de la jeunesse étudiante catholique, qui va devenir... du moins qui va se transposer beaucoup dans Cité libre, c'est voir, juger, agir. Donc, vous voyez, ce n'est plus seulement d'observer des rituels,
des préceptes,
des préceptes, mais vraiment de l'analyse critique. Et ça, quand on pense à la Révolution tranquille, qui va devenir vraiment une prise en charge du peuple québécois par lui-même, si on veut, eh bien, ça, c'est une forme d'analyse critique. Et c'est vraiment une forme de prise en charge encore que, finalement, qui est né dans ces premiers efforts de réflexion-là, individuelle, par ces journaux-là, qui sont nés, encore une fois, de l'Action catholique. Donc, vraiment, quand on dit qu'on y va au compte-gouttes, c'est pas révolutionnaire en soi, mais c'est non-conformiste, et ça, c'est important pour notre propos aujourd'hui.
Et j'imagine que de fil en aiguille, avec les années, les textes, il y avait une réflexion qui se faisait à travers les textes. À un moment donné, c'est devenu de plus en plus de gauche et de plus en plus confrontant pour le pouvoir en place et pour l'Église.
Ben tout à fait, et encore une fois, quand on dit ça va être de gauche aussi, c'est vraiment par rapport au fait que il y a vraiment un débat qui se fait entre le fait est-ce qu'on doit transposer ce souci du social-là en forme politique, ou est-ce qu'on doit garder ça au niveau finalement universel, spirituel, et c'est là qu'on va voir des personnages qu'on a très bien connus dans l'histoire, dont Pierre-Éliott Trudeau, bien sûr, qui a écrit beaucoup dans Cité libre, Claude Ryan, qui a été un personnage très marquant au Québec, qui est né de ces jeunesses catholiques. époque-là, mais eux ne sont pas associés à la gauche proprement dit.
Non.
Mais de Cité Libre, il y a des auteurs, dont Pierre Vadeboncœur et Pierre Vallière, ça, des révolutionnaires de première heure, qui écrivaient dans les mêmes parutions que Pierre-Éliott Trudeau et finalement Claude Ryan et même Gérard Pelletier, qui était ministre aussi également à l'époque. Donc vous voyez, on part du même moule, mais on prend des directions complètement différentes. Et cette direction-là différente, ça va se faire, justement, ça va s'opérer à partir du moment où l'enjeu national va vraiment naître. Parce qu'à un moment donné, c'est bien beau faire de la contemplation, dire que l'humain doit changer, mais il faut s'impliquer dans le social, parce que sinon, on n'est pas un être total, comme Pierre Vallière se plaisait à dire à l'époque et à l'écrire. Donc vous voyez, il y a vraiment un clash, une rupture qui se fait, mais on est à partir du même moule. Et ça, c'est des amis d'enfance, il faut le faire. Quand on pense à ça, Pierre-Éliott Trudeau et Vadeboncœur, Vallière, des amis d'enfance, aujourd'hui, ça a l'air complètement absurde, mais c'était le cas.
Pour les gens qui connaissent moins, est-ce que tu peux nous situer, Vallière, Vadeboncœur, un petit peu?
Oui, dans le fond, Pierre Vallière, si vous connaissez ou si vous avez déjà entendu parler de Nègre blanc d'Amérique, c'est son classique, 1967. Et quand on dit que le personnalisme a influencé beaucoup les révolutionnaires québécois, Nègre blanc d'Amérique s'attaque beaucoup à la dignité de la personne. Donc, vous voyez, un thème qui est déjà très présent à l'époque du personnalisme, la dignité, l'être totalisant. C'est surtout des choix de termes qu'on emploie. L'absolu, la mission providentielle, si on veut. Vous voyez, ça, c'est des termes qui vont revenir dans cette écriture-là. Et Pierre Vallière, je vous cite d'autres livres de lui, L'urgence de choisir, 1971, La liberté en friche, peut-être l'avez-vous déjà entendu parler, Le devoir de résistance. Ça, c'est un bon exemple de l'œuvre qui a été faite de lui. Et, petite parenthèse, Pierre Vallière, pour ceux qui seraient sceptiques par rapport à son côté, son héritage catholique, a déjà été le frère Flavien. Et entré chez les Dominicains. Et même, Mylène, je pense que tu as un autre exemple.
Oui, ben en fait, Gaston Miron était frère Adrien.
Oui.
Donc, c'est assez particulier de voir que ces gens-là qui ont été des marginaux un peu à l'époque, des non-conformistes, s'inscrivaient quand même, pas tant en rupture, mais en continuité, puis qui sont nés, dans le fond.
Pendant un certain temps, avoir accès aux études, c'était la seule manière d'avoir accès aux études, c'était de passer par le clergé,
c'était d'aller au cours classique, encore une fois, mais de vraiment entrer dans les ordres. C'était un autre stade.
Vraiment un autre bagage qu'ils ont reçu, ces hommes-là.
On voit la dimension juste spirituelle dans les textes de Miron. C'est souvent un langage, une sémantique qu'on utilise quand ça fait appel à une sorte de transcendance, une vision de l'avenir, à quelque chose de fort et de puissant. C'est là qu'on voit qu'il y a souvent un bagage de plus, et c'est justement ce bagage-là que les gens critiquaient à l'époque du marxisme. Ils disaient que l'homme athée marxiste n'a pas d'idéal autre que lui dans une classe sociale déterminée. Donc vous voyez, ça c'est vraiment particulier de voir ces cheminements-là, et moi c'est ce qui m'a attiré dans tout ça finalement.
Pour terminer ce bloc-là, est-ce qu'il y avait des différences entre les revues, entre Parti pris, Cité libre? Est-ce que vous pouvez nous situer un petit peu là-dedans?
Oui, tout à fait. Dans le fond, Cité libre, encore une fois, par rapport à Parti pris, je dirais plus Parti pris par rapport à Cité libre. C'est qu'il y a eu vraiment un conflit au niveau de Cité libre à partir de la fin des années 50, qui était vraiment axé sur l'action nationale. Et quand on dit, justement, Cité libre, on s'en tient au titre, on voit que c'est vraiment quelque chose d'assez général, assez abstrait, tandis que Parti pris, bien là, on s'engage vraiment dans quelque chose de précis.
Okay.
Et cette chose de précise-là, eh bien, c'est justement l'engagement politique proprement dit, et c'est dans ce cas-ci l'engagement socialiste révolutionnaire, ce que Cité libre était complètement contre, parce que Cité libre, le nationalisme, ça lui faisait extrêmement peur.
Okay.
Extrêmement peur, parce que nationalisme au Québec était souvent associé à la droite, et quand je dis à la droite,
au départ, c'est
la droite de repli sur soi, c'est la droite de dans la paroisse, c'est pas beaucoup de liberté d'expression, et c'est ça qui, à un certain moment donné, si on ne comprend pas le discours de Pierre-Éliott Trudeau, bien là, ça nous éclaire beaucoup plus, parce que Pierre-Éliott Trudeau, fort de Cité libre, a eu toujours une sorte de... Il a fait toujours de l'urticaire avec le nationalisme.
Une aversion,
merci. Parce que, justement, il associait ça toujours au nationalisme de Lionel
Groulx,
Adrien Arcan et compagnie, qui était irrationnel, selon lui.
Oui.
Cité libre, c'était rationnel, c'était pas irrationnel, selon la devise de la revue. Donc, vous voyez, c'est là que ça casse. C'est vraiment l'engagement révolutionnaire par rapport à l'homme dans la cité, tout simplement, qui réforme.
On va faire une petite pause musicale, puis on va revenir pour la conclusion là-dessus. On va écouter « Décadence » de Jean Leloup.
la décadence, la décade où on danse. Les décapés du caporal, les décatis du capital. C'est la décadence, je sais ce que j'avance. On marche à pétrole et à essence. Liberté pour les paranoïaques, tous les schizomaniaques, tous les échecs et maths, tous les macapilates, tous les psychopathes. En l'absence de Démérol, je n'avais pas d'alcool, je n'avais même pas de succès d'année instantanée. Liberté pour les toucans blancs, c'est d'une indécence incroyable, je pense. Tous mes voisins qui pleurent, suffoqués puis tombent, en proie au grand malheur, et puis enfin meurent d'une crise de cœur. À l'unanimité, c'est une évidence que nous allons le faire. Entre paranoïaques, on va si bien s'entendre. Tu me feras mal, je te le rendrai bien. Dur de t'aimer, dit la mère à sa fille qui vient de la larguer pour un drogué, un aventurier à Montpellier qui fait la zone à Barcelone, une épidurale à la normale, une lobotomie à l'anarchie, un manque de pudeur, un mal de cœur du jeune drogué qui a perdu sa fille et qui dégueule à pleine gueule sur la société.
Alors, c'était bien sûr Décadence de Jean Leloup, la pièce emblématique de notre grande noirceur à nous, dans laquelle nous sommes plongés jusqu'au cou encore. Mais là, il y a peut-être une petite lueur à l'horizon, en tout cas, on ne sait pas, là. On va voir qu'est-ce qui va devenir de tout ça. Ceci dit, nous sommes de retour avec Mylène et Martin. On va compléter cet exposé sur les racines catholiques des mouvements de gauche au Québec durant les années 30, 40 et 50. On a parlé de revues, de La Relève, de Parti pris, de Cité libre. Il y a une autre revue aussi, Mylène, dont on n'a pas parlé, qui est peut-être plus culturelle.
En fait, je vais parler surtout des maisons d'édition, donc qui ont été créées dans les années 50. Dans le fond, il y a eu le refus global Paul-Émile Bourdivoy, en 49, qui s'inscrivait vraiment en rupture avec l'héritage catholique, avec la société. Donc, l'institution de base qui est la famille, donc on va vraiment mettre ça de côté. Mais à côté de ça, il y a d'autres penseurs, d'autres écrivains qui vont adopter plus l'approche de la continuité, si j'oserais. Oui, il y avait une continuité. Donc Gaston Miron, que je mentionnais avant la pause, a eu une éducation catholique. Donc oui. C'était un frère. Il a étudié au grand séminaire et il l'a quitté au moment d'être ordonné. Il a décidé de quitter. Puis de 20 à 30 ans, dans le fond, il s'est impliqué beaucoup dans les mouvements de jeunesse catholique, puis il a côtoyé, il a fait des pièces de théâtre avec Pierre-Éliott Trudeau.
Ah oui!
Comme ça, ouais, il y a plein d'anecdotes par rapport à ça. Comme Martin le mentionnait tantôt, il y a des trucs qu'on peut pas s'imaginer aujourd'hui parce qu'ils ont pris des chemins tellement différents, mais ils sont tous issus du même terreau fertile, si on veut. Donc, Miron.
Ils voulaient tous changer les idées, révolutionner,
ouais,
mais ils voyaient ça différemment.
Exact. Puis, bon, Miron va créer l'Hexagone avec cinq autres personnes, qui était une maison d'édition qui était de la poésie. Donc, publiait de la poésie au départ. Et il y avait vraiment une volonté de créer une culture qui ne soit plus seulement canadienne-française, mais québécoise. Donc déjà, on a comme une réflexion qui est entamée dans les années 50 sur des critiques qui sont faites justement sur cette forme de nationalisme qui est le nationalisme canada-français. On se retrouve plus trop là-dedans. La littérature aussi, on se reconnaît plus non plus dans la littérature qui est faite. fait. Donc, il y a un paquet de jeunes écrivains, de jeunes loups qui vont publier des trucs plus en marge, qui vont s'inspirer aussi beaucoup de Saint-Denis Garneau. Bon, il y a beaucoup de choses qui se font à l'époque. Pour ça va mener, hein, dans le fond, un peu à une élaboration de la culture québécoise, québécois oui, qu'on connaît aujourd'hui.
J'ai le sentiment qu'à cette époque-là, on avait de la difficulté à se différencier de la France aussi. Ben, c'est qu'il fallait adopter la culture française. Ce qui était francophone était français. Il n'y avait pas le québécois.
Non, exact. Ben, on s'inspirait beaucoup. Miron allait souvent à Paris pour vendre dans le fond ses livres, pour en parler en Allemagne aussi, pour montrer que dans le fond qu'il y a des éditions, qu'il y a de la littérature qui se fait au Canada en français. Et souvent les gens étaient surpris. C'est difficile aussi à l'époque parce que un livre au Québec coûtait trois fois plus cher à produire qu'en France. Donc au niveau de la production puis de la vente, c'était difficile, puis on essayait de toucher le marché français, mais des fois, il y avait une certaine reconnaissance, on mentionnait certains, mais de là à ce que les gens achètent, il y avait beaucoup de liens entre les deux, mais...
Oui. Puis pendant longtemps aussi, je pense que les Québécois avaient un petit complexe d'infériorité par rapport à la France. Hein,
mais c'était pas le cas du tout de Miron, en tout cas.
Non.
Lui, il était quelqu'un qui, en tout cas, c'est mentionné dans sa biographie qui a été faite par Pierre Nébeveux, que lui se sentait très, très à l'aise et nouait des amitiés assez facilement. Puis qu'il y avait quand même à l'époque, je dirais, il y avait une volonté de s'inspirer, mais de faire quand même les choses d'une autre manière. Donc, c'était pas si... Le complexe d'infériorité, on l'a peut-être encore aujourd'hui, mais à cette époque-là, il y avait peut-être la volonté, justement, de se démarquer puis d'accoter, dans le fond. Là. C'était peut-être plus comme un beau défi que quelque chose d'écrasant, le fait que la France soit si présente dans la littérature. Là. Donc, puis ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que la poésie qui s'est mise à être publiée est devenue de plus en plus engagée, de plus en plus... L'Hexagone a publié des essais aussi. Donc, il y avait vraiment une tribune pour d'autres idées. D'un autre côté, il y a Roland Giguère aussi qui avait créé... un autre poète qui a créé aussi sa maison, une maison d'édition. Mais celle-là était vraiment plus... pointu, j'oserais dire, puis vraiment plus en rupture. Là. Roland Giguère était vraiment athée. Se positionnait vraiment en rupture avec l'Église. Puis là. Donc, il y avait différentes approches, mais ces maisons d'édition-là se parlaient. Il y avait quand même, encore une fois, comme dans le politique, il y avait une volonté de faire bouger les choses, de changer, mais c'est juste les prémices. Si on veut, qu'il pouvait changer. Surtout la position qu'on pouvait avoir par rapport au catholicisme ou à la nation, là, au concept de nation. Là.
Quand on parle du concept de nation, justement, il y a un personnage très important dont on n'a pas parlé, c'est Fernand Dumont, qui est de cette époque-là aussi.
Tout à fait. Puis Fernand Dumont, je voudrais faire le lien aussi avec Gaston Miron par rapport au fait qui fait partie d'une école, si on veut, de gens qui voulaient créer une nouvelle culture carrément. Et pour Miron, c'était passé par la force du verbe, par exemple, justement, s'affirmer en tant que Québécois. Et Fernand Dumont, qui a été un des plus grands sociologues de l'histoire québécoise du 20e siècle, qui d'ailleurs vient de Montmorency, juste à côté des Chutes, bien, c'est un petit gars de la place, justement. Fernand Dumont, lui, qui a été un des pères des sciences sociales au Québec, a fait sa carrière sur, justement, le renouvellement de la culture au Québec. Comment créer une culture authentique, faite de foi, d'ailleurs, mais faite à partir de l'événement. Ce qu'il appelait l'événement, donc à partir de la vie de tous les jours, mais de l'avènement également. Et l'avènement, c'est le projet collectif. Donc, voyez un peu cette forme de vocabulaire-là, typiquement, je dirais, chrétien, d'aller vers l'avant, de quelque chose de transcendant. Et Fernand Dumont, on pense à ses œuvres, justement, Genèse de la société québécoise, c'en est une.
Oui, que j'ai lu, que j'ai eu la chance de lire. Je le conseille à tout le monde là, qui écoute. C'est vraiment à lire, ça.
C'est fantastique. Il y a une plume assez... La plume
Il
de Fernand
était poète,
Dumont est carrément
aussi.
L'ange du matin. Je pense qu'il avait publié ça dans dans ses années de jeunesse, parce qu'il est né en 1927, donc il avait peut-être une vingtaine d'années. Et un autre qui est allé en France d'ailleurs, mais Fernand Dumont, c'est un détour obligé, assez compliqué par bout, parce que justement c'est un poète, donc des fois c'est assez lourd comme écriture, mais je pense que en bout de ligne, ce qui ressort de ça, c'est vraiment la nécessité de créer une nouvelle culture, et ça s'est inscrit dans la Révolution tranquille, et qui a été un d'ailleurs, juste pour terminer là-dessus, un des critiques les plus constants de ce que la Révolution tranquille est devenue, c'est-à-dire une révolution qu'il qualifiait de bureaucratique, froide, qui avait plus de sens. Et c'est là que l'héritage du Dumont se voit aujourd'hui, c'est comment redonner sens à tout ça.
Pour conclure, justement, est-ce qu'on a un héritage de ce côté-là catholique dans les mouvements de gauche? Est-ce que les mouvements de gauche aujourd'hui conservent quelque chose de cette implication-là catholique?
Je pense que d'avoir un héritage direct, ça serait dur à dire, mais c'est des choses qui s'entrecoupent. Par exemple, la justice sociale, déjà, ça c'est un thème qui était repris, qui est un des credos du socialisme et qui a été aussi un des credos du catholicisme au 20e siècle, vraiment le bien commun, la justice sociale, d'avoir un projet qui nous transcende, un avenir, ça, on voit que les deux mouvements se recoupent, mais d'avoir un héritage direct, c'est difficile maintenant qu'on parle même de charte de la laïcité, d'un côté, on a l'impression que tout a pris le bord, mais quand on pense à ça, ça serait bien de s'y attarder, parce que je suis sûr et certain qu'il y a des petites choses à aller voir, puis même dans notre mentalité collective, c'est pas fou de faire des liens avec ça, parce que justement, ça fait appel à un projet novateur.
Puis je dirais que du côté des chrétiens d'aujourd'hui, des croyants, il y a quand même, après Vatican II, il y a eu beaucoup de changements, puis ce qui est populaire aujourd'hui dans l'Église, ce que les gens recherchent, c'est beaucoup le côté esthétique de l'expérience de la foi, de l'expérience de Dieu. Les jeunes sont beaucoup, beaucoup attirés par ça. Et la doctrine sociale de l'Église, ça a un peu pris le bord. Il y a des mouvements, pas d'action catholique, mais des mouvements de justice sociale. Il y en a encore. Mais il y en a très peu.
Mais est-ce que l'Église elle-même est encore porteuse de sa doctrine?
C'est ça, exactement. On peut se demander, bon, quel héritage on a de la Révolution tranquille. Bon, ça s'est modifié beaucoup, mais Vatican II aussi, il y a des choses qui n'ont pas été respectées là-dedans. Puis il y a comme une tendance à revenir, pas nécessairement en arrière, mais... Vatican II prend un peu le bord. Donc, oui, la doctrine sociale de l'Église, c'est de moins en moins présent. Puis, c'est plus comme ça non plus qu'on va vendre.
Mais si c'est pour conclure là-dessus, justement, tant ou si longtemps que l'Église va vouloir se distancer du politique au sens proprement dit, ben je pense que ça va décourager beaucoup de gens, parce qu'il y en a qui, je pense, qui seraient prêts à avoir un engagement vraiment humain, axé sur la justice sociale et tout, mais l'Église ne veut pas s'impliquer là-dedans. Et juste dernière parenthèse, on pense à la théologie de la libération en Amérique latine dans les années 60.
Qui était tellement populaire.
Exactement. C'est un continent a failli se libérer, parce que c'était associé au socialisme et au marxisme à l'époque. On voit que l'Église, dans ses mauvais travers, si on prend le point de vue de l'orthodoxie, eh bien, ça peut mener à quelque part, mais c'est pas là où ils veulent aller.
Non, il y a vraiment, vraiment un mouvement de recul, dans le fond, justement, par rapport à ce pouvoir temporel-là auquel on ne veut pas toucher.
Ça serait surprenant que ça revienne au Québec.
Ça serait surprenant.
On peut souhaiter que le mouvement de gauche trouve d'autres... manière de continuer. Alors, merci beaucoup, Martin.
Merci
beaucoup, Mylène. Ça nous a quand même éclairé un petit peu plus sur cette période-là du Québec qu'on connaît peut-être pas beaucoup. Alors, on va faire une petite pause. On va écouter Jeunesse apatride de Hochelaga, et on revient avec la conclusion de l'émission.
Elle ne gagne suffisamment pas assez. Comment faire avec deux bouches à nez?
C'était Jeunesse apatride du groupe Hochelaga, qui est un groupe de Montréal, un groupe anarchiste en passant. On va terminer l'émission cette semaine par la lecture de deux textes. Le premier a été composé en 1968 par Michel Lalonde et sera lu par David. Le second est un texte inédit qui a été lu à la place Émilie Gamelin le 25 avril dernier, pendant une des nombreuses manifestations étudiantes qui se déroulent à Montréal depuis 3 mois. Il a été écrit par Marie-Christine Lemieux-Couture et sera lu ce soir par Laura. David?
Alors, Speak White de Michel Lalonde. Speak White. Il est si beau de vous entendre parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets de Shakespeare. Nous sommes un peuple inculte et bègue, mais ne sommes pas sourds au génie d'une langue. Parlez avec l'accent de Milton et Byron et Shelley et Keats, speak white, et pardonnez-nous de n'avoir pour réponse que les chants rauques de nos ancêtres et le chagrin de Nelly Kent. Speak white. Parlez de choses et d'autres, parlez-nous de la Grande Charte ou du monument à Lincoln, du charme gris de la Tamise, de l'eau rose du Potomac. Parlez-nous de vos traditions. Nous sommes un peuple peu brillant, mais fort capable d'apprécier toute l'importance des crumpets ou du Boston Tea Party. Mais quand vous really speak white, quand vous get down to brass tacks, pour parler du gracious living et parler du standard de vie et de la grande société, un peu plus fort alors, speak white, haussez vos voix de contremaître. Nous sommes un peuple, nous sommes un peu durs d'oreilles, nous vivons trop près des machines et n'entendons que notre souffle au-dessus des outils. Speak white and loud, qu'on vous entende de Saint-Henri à Saint-Domingue. Oui, quelle admirable langue pour embaucher, donner des ordres, fixer l'heure de la mort à l'ouvrage et de la pause qui rafraîchit et ravigote le dollar. Speak white, tell us that God is a great big shot and that we're paid to trust him. Speak white, parlez-nous production, profits et pourcentages. Speak white, c'est une langue riche pour acheter, mais pour se vendre à perte d'âme. Mais pour se vendre. Ah, speak white, big deal. Mais pour vous dire l'éternité d'un jour de grève, pour raconter une vie de peuple concierge, mais pour rentrer chez nous le soir, à l'heure où le soleil s'en vient crever au-dessus des ruelles, mais pour vous dire, oui, que le soleil se couche, oui, chaque jour au-dessus, chaque jour de nos vies, à l'est de vos empires, rien ne vaut une langue à jurons, notre parlure pas très propre, tachée de cambouis et d'huile. Speak white, soyez à l'aise dans vos mots. Nous sommes un peuple rancunier, mais ne reprochons à personne d'avoir le monopole de la correction de langage. Dans la langue douce de Shakespeare, avec l'accent de Longfellow, parlez un français pur et atrocement blanc, comme au Vietnam, au Congo, parlez un allemand impeccable, une étoile jaune entre les dents. Parlez russe, parlez rappel à l'ordre, parlez répression, speak white, c'est une langue universelle, nous sommes nés pour la comprendre avec ses mots lacrymogènes, avec ses mots matraques. Speak white, tell us again about freedom and democracy. Nous savons que liberté est un mot noir, comme la misère est nègre et comme le sang se mêle à la poussière des rues d'Alger ou de Little Rock. Speak white, de Westminster à Washington, relayez-vous. Speak white, comme à Wall Street, white comme à Watts. Be civilized. Et comprenez notre parler de circonstances quand vous nous demandez poliment, how do you do? Et nous entendez vous répondre, we are doing all right. We are doing fine. We are not alone. Nous savons que nous ne sommes pas seuls.
Speak rich en tabarnak, sur toutes les chaînes de radio comme celle de la TV. Speak rich, c'est Québec Inc. Parlez-nous du bien commun vendu au moins offrant, des trous dans les poches de la nation, pour que vos gaz de schiste perforent notre ignorance. Speculate on our future. Donnez-nous des chroniqueurs de foutaises, des bourreux de crânes, de nuages pelletés, des démagogues de la condescendance érigés en système pour nous faire avaler la pilule de votre mépris. Speak rich en tabarnak. Ne tournez pas votre langue de bois 7 fois dans votre bouche. Coupez à blanc nos arbres à profit. Financez les multinationales à même notre trésor public. Pendant que nous peinons sous le poids de notre juste part, éduquez-nous à l'investissement et à la richesse en nous endettant jusqu'à plus soif. pour que vos intérêts nous plient les chines. Speak rich en tabarnak, as if we don't know about how you lead a financial crisis. Dites Fitch, Moody's, Standard & Poor's pour calmer notre tension du désespoir. Faites-nous croire que nous payons la dette de notre solidarité quand nous écopons de frais de 25 ans de libéralisme corrompu. Speak rich over our dead bodies, because nous sommes 99% à crever de faim pour nourrir le chronos du capitalisme sauvage. Speak it out loud, because nous sommes lobotomisés par vos modèles de consommation. Nous comprenons des langages simples comme celui de la publicité. Nous comprenons des langages vides comme celui de vos discours politiques. Nous comprenons un peu trop. Speak rich en tabarnak, give us an American dream, pour épancher nos plaies du capital humain. Bâillonnez nos révoltes de votre poivre démocratique, supprimez notre honte sous la matraque des libertés individuelles. Étouffez-nous de vos droits lacrymogènes, déformez notre cohésion sociale sous l'objectif propagandiste de vos masses médias. Nous parlons peu, mais nous n'oublions pas. Speak rich en tabarnak, from Thatcher to Reagan, in Friedman or von Hayek's word. Bring us to the Washington consensus and light us with the new world order. Nous sommes faits de désordre et votre norme est trop petite pour nous. Speak rich, coupez les mamelles de l'État, excisez le peuple sous le bistouri des institutions financières. Il faut régler le pas des pauvres à coups d'inflation. Allied us in our excess of evil. Nous sommes dociles dans la terreur, pris de torpeur hivernale dans vos xénophobies quotidiennes. Mais si nous nous réveillons, si nous nous réveillons, nous savons soulever tous les printemps du monde. Speak rich. Tell us about your cultural revolution. Dites-nous combien vous êtes socialement responsable. Que notre lexique de gauche se vide de son sens, au bénéfice de vos sololiques sourds d'idéologie dominante. Condamner notre culture de misère à votre dédain. Parce qu'elle ne cadre pas dans votre économie du savoir. Parce que vous craignez que la force de notre « nous » renverse la faiblesse de votre « je ». Quand vous vous recroquevillez sur une majorité silencieuse pour mieux nier la rumeur dont la rue est otage. Quand nos cris résonnent sur les pavés pour vous faire entendre qu'une autre voie est possible. Speak rich en tabarnak. Commencez-vous à comprendre que nous ne sommes pas seuls.
Merci. Alors, voilà, je vais vous laisser méditer là-dessus. Je remercie Gab Paquette pour la composition de la musique thème de l'émission. Je remercie David pour son accueil chaleureux à sa librairie, la librairie Saint-Jean-Baptiste. Merci à nos invités, Gabriel Côté, Mathieu Houle-Courcelle, Mylène Brunet et Martin Lanouette. Merci à David et à Laura pour la lecture des textes. Et merci à Big Nick, qui a fait la technique ce soir et qui nous héberge sur le site de Radio Fiat Lux, la meilleure radio sur le web. Et si tout se passe comme prévu, nous serons de retour le 4 juin pour la dernière émission de la saison. Merci et bonsoir.